Les chroniques du royaume des quatre saisons. Tartine deuxième, la grande fleur. Couettard, le jardinier du royaume, ne dormait pas bien. Il se tournait et se retournait sur son matelas, éteignant la lumière, la rallumant, l'éteignant encore, au point que sa femme se réveilla bientôt.
Mais père Couettard, ça va durer encore longtemps.
Excuse-moi, Verpine, mais je suis très préoccupée. Mes fleurs ne me parlent plus.
Certains parlent avec leurs chiens, d'autres avec leurs chevaux, d'autres encore avec leurs voitures. Couettard, lui, parlait avec ses fleurs. Tout le monde était d'accord pour trouver cela normal, puisque le royaume des quatre saisons était le plus joliment fleuri de tous les royaumes du continent. De la plus petite pâquerette à la plus belle et à la plus rare des orchidées, elle s'arrangeait avec Couettard pour pousser où il le demandait. Une fois par an, au mois de mars, on pouvait le voir des heures durant, assis en tailleur face aux plantes en pot réunies en assemblée, négocier l'exposition au soleil, la qualité de la terre, le nombre d'arrosages, enfin, toutes les conditions nécessaires pour que tout se passe au mieux pour tout le monde.
Elles ne me parlent plus. Pire, elles rabattent leurs pétales comme si elles ne voulaient pas m'écouter.
Père Couettard, tu n'as qu'une chose à faire. Demande une audience au roi Godelure et explique-lui la situation.
Tu crois, ma douce ?
C'est ton devoir. Le jardinier du royaume est aussi important que le ministre des Jeux et de la Justice. Il te recevra sans attendre. Foi de Verpine.
Et maintenant, éteins la lumière. S'il te plaît.
Ce jour-là, le roi Godelure et son épouse, la reine Lurette, accueillaient l'ambassadeur du royaume de pas loin. Il était question de conclure un accord entre les deux pays, pour le simple bonheur de conclure un accord, peu importe lequel, à partir du moment où tout cela se finirait par un bon repas de tartines. Ils en étaient aux tartines dessert, quand M. Piquet, le secrétaire particulier du roi, un homme mince comme un clou à tête plate, vint souffler à l'oreille du roi.
Couettard, mais qu'il entre sur le champ. Mon cher ambassadeur, vous allez voir le seul homme qui fait pousser des roses sous un sapin. Couettard, mon bon, comment vas-tu? Tu prendras bien une tartine au coulis de framboise. Elles sont succulentes.
C'est que ce n'est pas très fin, ma veste.
Oh, un souci?
Il faut que je vous parle, Majesté. Il en va de la bonne santé du royaume.
Et Godelure serviette autour du cou, tartine au jus de menthe à la main, pour digérer, d'entraîner le jardinier royal dans son bureau, et Couettard de lui raconter le récit de sa réunion avec les fleurs.
Mais elles ne t'ont vraiment rien dit?
Les fleurs ne peuvent pas parler du mal, Majesté. Elles sont trop sensibles, trop délicates. Quand quelque chose ne va pas, elles se referment sur elles-mêmes et il est impossible d'aller plus loin.
Mais toi, n'as-tu pas une petite idée sur ce qui se passe?
Pas la moindre, Majesté. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Rendre visite à la grande fleur.
La grande fleur, dis-tu. Il y a bien longtemps que je ne l'ai vue. Tu te souviens du jour où je te l'ai présentée officiellement ?
Je m'en souviendrai toute ma vie, Majesté.
Bien, nous partirons demain, toute affaire cessante. Le temps que la reine Lurette s'occupe de me préparer un petit encas pour le voyage.
Du plus haut sommet des montagnes du Nord, le pic du Loup qui prie dévale le plus large glacier du continent. De ce glacier s'écoulent maints torrents, cascades et sources qui alimentent tout le pays en eau. Tout en haut du haut se trouve une grotte ouverte sur le ciel. Selon l'heure, ses parois de pierre luisent en vert d'émeraude, en bleu d'améthyste ou en rouge rubis. Adossé à la paroi se dresse un trône de pierre couvert d'une mousse épaisse comme de la fourrure. Installé sur cette mousse, la grande fleur. Quand on dit grande, il ne faut pas penser gigantesque, non. Elle est de bonne taille, certes, plus large que haute. De grandes feuilles s'étalent gracieusement de part et d'autre du trône, tandis que d'autres remontent autour de la tige et forment un col évasé d'où s'échappe la fleur aux pétales froissés, roses et bordés de blanc. On dit grande comme on dirait une grande reine, une grande chanteuse ou une grande joie. Nul ne sait depuis quand elle est là. Nul ne sait qui l'a plantée, ni même si quelqu'un l'a plantée. Elle connaît chaque fleur du monde avant même qu'elle ne soit en bouton. Telle est la grande fleur. Et nous retrouvons nos deux compères assis sur leurs ânes, Roméo et Juliette, sur le chemin escarpé qui grimpe le long de la montagne du Loup qui prie. Pour aller visiter la grande fleur, pas de cortège royal, pas d'escorte. Il faut s'y rendre en toute humilité, sans tapage et sans grand dérangement. Les ancêtres de Godelure ont presque toujours respecté cette consigne, sous peine de voir l'entrée de la grotte impitoyablement interdite. Presque, puisque l'on parle encore du roi Ripaton XII, qui voulut imposer au pays la culture des fleurs exclusivement beige, sans épines et qui dure toute l'année. Ces savants avaient réussi, en torturant quelques espèces, à obtenir cette plante rare. Mais les essais pour les faire pousser hors des laboratoires avaient lamentablement échoué. Il fallut se résigner à demander l'autorisation de la grande fleur. Ripaton, un orgueilleux bêta, se déplaça avec toute sa cour et ses soldats jusqu'au refuge de celle-ci. Ce qui se passa exactement, nul ne le sait. Toujours est-il que quand cette troupe revint en ville, il manquait la moitié des soldats. Princes, princesses, comtes et marquis avaient perdu toute couleur, semblaient avoir vieilli de 20 ans, et tous présentaient aux mains de vilaines éraflures qui mirent longtemps à cicatriser. Ripaton XII fermait lamentablement le convoi, la couronne autour du cou comme s'il avait maigri de la tête, son grand uniforme en lambeaux, les pieds nus. Il tentait difficilement de diriger un pauvre âne qui semblait honteux de porter un tel cavalier sur l'échine. Le résultat de cette pénible expédition fut que, durant tout son règne, aucune fleur ne daigna pousser où on lui demandait. Elles ne disparurent pas, non. Elles avaient compris que toute la faute revenait au roi et à ses savants. En revanche, elles s'installèrent dans des endroits les plus farfelus, dans le nez des statues, sur le dos des vaches, sur les casques des militaires, enfin bref, là où on ne les voit jamais. Heureusement, Ripaton ne resta pas longtemps sur son trône. Il glissa par mégarde sur un pissenlit qui avait surgi au fond de sa baignoire et se fracassa le crâne. Son successeur, Panuche IV, dit le plantoir, seul et sur son âne, alla humblement présenter ses excuses à la grande fleur et tout rentra dans l'ordre. Godelure et Couettard se tenaient à présent devant l'imposant rideau de rosiers grimpants qui obstruait l'entrée de la grotte. Ils attachèrent Roméo et Juliette sur la barre du balcon qui surplombait la vallée et se dirigèrent vers les fleurs gardiennes. Celles-ci se mirent instantanément en mouvement à leur approche. Elles ondulaient de toutes leurs tiges dans un bruissement menaçant. Leurs feuilles tendues vers le ciel laissaient voir des épines nombreuses et aiguisées. Godelure et Couettard mirent un genou à terre.
« Grande fleur, nous t'implorons de nous laisser entrer. Moi, roi Godelure Ier, et monsieur Couettard, mon jardinier royal. »
Couettard déposa alors au pied des rosiers grimpants ce que Roméo et Juliette avaient régulièrement fourni durant leur avancée et qu'il avait méticuleusement ramassé. Un beau tas de crottins d'âne. Une des tiges se baissa alors jusqu'à cet étrange présent et se releva lentement. L'instant d'après, le rideau se levait, découvrant le passage. La grande fleur les attendait, la tête posée sur une de ses feuilles. Dans la grotte flottait une odeur lourde et entêtante. C'est à cela que l'on devine son humeur. Un parfum léger et discret, la grande fleur est de bonne composition. Un parfum capiteux et enveloppant, la grande fleur vous donne toute son amitié. Vous pouvez alors tout lui demander. Mais lourd et entêtant, cela commande à la prudence. Couettard et le roi, sentant l'orage, la saluèrent très respectueusement. D'un mouvement tout en souplesse, elle leur désigna un curieux banc de jardin tout en buis taillé, confortable et moelleux. Godelure prit la parole, un petit peu impressionné.
« Grande fleur,
Dans un bruit saisissant, celle-ci se redressa d'un coup. Ses feuilles se mirent à remuer dans tous les sens, comme des tentacules. Les fleurs n'ont pas de bouche, mais savent se faire entendre quand il le faut. Tous ceux qui ont eu la chance de converser avec elles témoignent de grands picotements au milieu du front. En tout cas, la voix qui résonne alors dans le crâne des deux pauvres humains n'est rien moins que glaciale.
« Roi Godelure, je sais pourquoi tu es ici. À vrai dire, je t'attendais impatiemment. »
Dans le même temps, ils sentirent sous leurs fesses les branches de buis devenir un peu piquantes.
« Vous auriez dû me prévenir, grande fleur. Je serais venu immédiatement. Oui. » »«
Je ne préviens jamais personne, Godelure. Quand on a une question à poser, on vient me voir. C'est tout. Mais les humains se posent toujours des questions une fois qu'il est trop tard.
« Trop tard, Majesté. Elle a dit qu'il est déjà trop tard. Ah, j'en étais sûre. »
« Oui, monsieur Couettard. Pour certaines espèces fragiles, le mal est fait. Vous ne les reverrez plus avant longtemps. Et pour quelques-unes, plus jamais. »
L'odeur était maintenant presque insoutenable. Les murs de la grotte étaient devenus noirs comme du charbon. En un mot commençant, Godelure et Couettard avaient les pouettes. Soudain, la grande fleur releva la tête d'un coup sec.
« Faites-la entrer !»
Les rosiers s'écartèrent de l'entrée de la grotte et en un instant, l'atmosphère se détendit. La pierre des parois se mit à luire de reflets plus doux. La grande fleur tendit majestueusement une de ses feuilles et d'une voix pleine de douceur déclara
« Bienvenue, votre Altesse. Je vous ai fait prévenir dès leur arrivée. Ils ont mis du temps, mais ils sont là. »
Le roi et le jardinier avaient beau écarquiller les yeux, ils n'arrivaient pas à distinguer à qui la grande fleur réservait cet accueil. Qui était cette Altesse ?
« Godelure, tendez votre main. »
Le ton de la grande fleur se voulait sans réplique. Pas question de la contrarier. La main de Godelure peut tenir 3 tartines entières et le pot de confiture. Autant dire que l'abeille put s'y poser confortablement. Sans être de taille imposante, elle donnait, tout comme la grande fleur, une impression de grâce et d'autorité.
« Messieurs, je vous présente Calice, la reine précieuse des abeilles des plaines. »
Calice inclina la tête et toucha légèrement de ses antennes la paume de Godelure. Aussitôt, celui-ci sentit vibrer son corps, pourtant massif, des pieds à la tête.
Jamais il n'avait connu sensation pareille. Il ne sut trop comment répondre et se fendit du hochement de tête le plus royal qu'il put imaginer. La reine précieuse étendit alors lentement ses ailes et les agita de plus en plus vite. L'air se mit à vibrer de mille bourdonnements, et ces bourdonnements dans les oreilles des deux hommes devinrent soudainement des mots. Ce qu'ils entendirent ne leur fit pas plaisir.
Tout a commencé au premier rayon du soleil, quand les glaciers des montagnes commencent à fondre. C'est l'heure pour nous de nous réveiller. Comme chaque année, après avoir nettoyé la ruche, nos ouvrières sont sorties pour la première récolte de nectar. Les plus précoces des fleurs commencent à sentir sous leurs racines la nouvelle eau qui ruisselle doucement vers la vallée. Elles s'ouvrent alors et nous offrent leur cœur où nous puisons notre nourriture. Il a fallu quelques jours avant de réaliser qu'il y avait quelque chose d'anormal. Nos filles revenaient épuisées. Même nos plus vigoureux bourdons peinaient à ramener leur récolte. En fin de saison, c'est normal. Mais là, au bout de quelques semaines, on annonça les premiers décès. Nous mourrions par dizaines. J'ai réuni il y a peu le conseil des reines. Tous les témoignages concordent. Et surtout, un point nous inquiète terriblement. Notre miel a une odeur infecte et nos enfants refusent de se nourrir. Je vous le dis, messieurs, si cette situation perdure, il n'y aura bientôt plus d'abeilles dans le haut des plaines et bientôt plus d'abeilles dans le royaume entier.
Les vibrations des ailes de la reine précieuse devinrent moins régulières et beaucoup plus faibles. Le roi comprit alors que Calice sanglotait. Il n'osait plus bouger sa main et la tristesse de la reine précieuse commençait à le gagner. La grande fleur tendit très lentement une feuille et d'une voix très douce invita Calice à venir la rejoindre. L'atmosphère était très lourde. Les deux hommes avaient le cœur serré et ne savaient plus où se mettre. D'un coup, le buis sur lequel ils étaient assis s'affaissa sous leurs fesses. Ils se retrouvèrent avec les genoux au niveau des yeux.
J'espère, messieurs, que vous comprenez la gravité de la situation. Si les abeilles disparaissent, nous ne leur survivrons pas longtemps. En échange de notre pollen, elles transportent nos graines d'enfants. Si rien n'est fait, nous deviendrons stériles. Comprenez-vous ? Comprenez-vous ?
L'air s'emplit d'une senteur épouvantable. Dans le même temps, Godelure et Couettard eurent l'impression d'être assis sur un hérisson géant. Il ne leur fallut pas une seconde pour se retrouver debout, le derrière en feu.
Mais qu'attendez-vous de nous ?
Que vous régliez vos problèmes de famille, roi Godelure premier.
Problème de famille ? Mais qu'est-ce que ma famille ?
Godelure sentit soudain une onde de colère monter du plus profond de lui. Comment n'y avait-il pas pensé avant ?
Oh, ravageur !
Votre cousin, monseigneur ?
Mais bien sûr, Couettard ! Qui d'autre que cet énergumène qui louche sur mon trône depuis qu'il est petit ? Il n'a de cesse de préparer des mauvais coups pour ruiner le royaume et me faire haïr du peuple. Qu'a-t-il encore pu manigancer ?
À vous de le découvrir. Je vous suggère d'aller faire un tour sur le haut du glacier. Et vite.
Sur les parois de la caverne tournoyaient à présent des spirales rouges striées de blanc et dans l'air vrombissaient des grondements sourds. La grande fleur se leva, les pétales serrés et tendus comme des lames. Le roi Godelure, dans un même mouvement, dressa alors sa massive silhouette et, bien campé dans ses bottes, fixa alors la souveraine des fleurs.
Grande fleur, j'ai entendu votre colère. Sachez que la mienne commence à peine à naître.
Et sans autre parole, il tourna les talons, suivi de Couettard, qui n'en menait pas large, lui l'homme le plus paisible de la planète. Le rideau de rosiers grimpants se déchira devant eux. Dehors, la nuit enveloppait les montagnes.
Ils grimpèrent sur Roméo et Juliette. Assis sur un tonneau, Ravageol curait ses 10 dents restantes avec une aiguille d'aubépine. Il contemplait ses hommes déverser sur le glacier du loup qui prit un liquide visqueux qui en puantissait l'atmosphère d'une odeur de chou pourri qui me satisfaisait pleinement. Ravageol n'aime que le chou. C'est le seul végétal qui trouve grâce à ses yeux. Ravageol n'aime pas les fleurs, ni les arbres, ni les fruits, ni rien, sauf le chou. Il en était devenu un spécialiste mondial. Il en avait conçu l'idée brinzingue que le chou serait l'aliment essentiel des siècles à venir et qu'il s'emploierait à développer sa culture unique à la terre entière, son grand rêve du pôle Nord au pôle Sud, un monde couvert de choux. Mais pour cela, il avait besoin de beaucoup d'argent, de cultivateurs de choux et d'une belle armée. Il savait en effet qu'il faudrait en convaincre beaucoup de sa bonne idée. Tout le monde n'était pas prêt à reconnaître son génie et la force dans ce cas est le meilleur moyen de gagner du temps. Il devait à tout prix monter sur le gros trône de son gros imbécile, le gros cousin, le roi Godelure Ier. Ainsi, il pourrait se faire obéir par toutes sortes de gens, surtout par ceux qui savent faire tirer les canons. Il lui fallait donc trouver un moyen pour se débarrasser de Godelure. Ce dernier était un souverain aimé de tous ses sujets, beaucoup trop. Il devait alors réussir à le faire haïr. Son projet était le suivant. Empoisonner toutes les sources et les rivières par une mixture de sa composition, la ravageolite. L'eau empoisonnée passera dans les racines des plantes qui ne pousseront plus. Bientôt, il n'y aura plus rien à récolter, plus rien à donner à manger aux bêtes. Le peuple affamé se retournera fatalement contre Godelure. C'est ce moment que choisira Ravageol pour apparaître à la tête d'un énorme convoi de camions-citernes remplis de soupe aux choux qu'il offrira gratuitement à la population, ce qui fera de lui le sauveur du royaume. Godelure sera exilé et Ravageol pourra entamer sa conquête du monde. Encore quelques semaines et les effets de la ravageolite seront définitifs.
Je suis un vrai génie. Roi Ravageol Ier, tu es un génie!
Au bout de la main qui avait saisi Ravageol à la gorge, se tenait le souverain le plus rouge de colère que l'histoire ait connu.
Espèce de globule édenté! Qu'est-ce que l'éponge trouée qui te sert de cervelle a encore imaginé pour me voler mon trône?
Oh, mon cousin! Quelle surprise!
Godelure souleva alors Ravageol le plus haut qu'il put et aussi sec, le laissa retomber fesse en avant, ce qui eut pour effet de défoncer le couvercle du tonneau dans lequel Ravageol s'enfonça. Seul ne dépassait du bord du fût que la tête et les pieds. Le roi renversa le tonneau et d'un coup de talon furieux le fit dévaler le long de la porte. On entendit les cris de Ravageol même après qu'on l'ait perdu de vue. Les fureurs de Godelure sont connues et redoutées de tous, et comme des dizaines de cafards, les serviteurs de Ravageol s'éparpillèrent sur les pentes du glacier. Restait encore une centaine de tonneaux qui attendaient d'être vidés de leur immonde préparation. Couettard, main sur les joues, comme pour les empêcher de tomber, ne pouvait que constater l'énormité des dégâts. De vilaines rigoles verdâtres ruisselaient en fumant sur le glacier en direction de la vallée. L'apocalypse n'était pas passé loin. Trois mois plus tard, les champs, les forêts et les jardins du royaume éclaboussaient de couleurs et explosaient de végétation. Zerpine Couettard ne voyait plus son mari de la journée, mais elle en avait l'habitude. À cette saison, son grand jardinier d'époux faisait 2 journées en une. Les récoltes promettaient d'être les meilleures depuis 20 ans, on préparait avec excitation le concours de la plus belle tartine de l'année, enfin bref, tout le monde vaquait à de saines occupations. Même celui-là, si, regardez, sur le chemin pentu qui grimpe vers le sommet du loup qui prie, entouré de deux gardes à cheval, suant, soufflant, râlant entre ses mauvaises quenottes, les yeux hors de la tête, poussant une énorme charrette remplie de crottins d'âne, encore fumant. Et il ne comprend pas, Ravageol, il ne comprend pas,
mais pourquoi qu'à chaque fois qu'il croise une abeille, il se croit obligé de lui piquer les fesses.
C'était les chroniques du royaume des quatre saisons.